réconciliation, justice, donc, qui sont les notions clés qui résonnent lorsque les fins de conflit et les sorties de violence se mettent en place. C'est en général les deux notions qui marquent les processus de retour à la normale et à la mise en place donc, d'ordre nouveau et de nouvelles logiques qui permettent de tourner la page. Alors nous avons aujourd'hui une table ronde composée de chercheurs qui ont tous travaillé donc, sur la réconciliation et la justice dans des espaces très différents. Leur lecture et leur retour d'enquête permettront de discuter et de mettre en perspective les expériences menées, notamment, parce que nous sommes en Tunisie, notamment dans les pays du Maghreb. Je pense à l'UER au Maroc, l'instance équité réconciliation au Maroc qui a permis de tourner la page des années de plomb, à la politique d'amnistie, le pardon et réconciliation nationale en Algérie pour en finir avec la décennie noire, et à l'instance vérité et dignité en Tunisie et ses audiences publiques. Et on voit bien à quel point, quand on a cette perspective maghrébine, ces expériences sont extrêmement contrastées et surtout correspondent à la spécificité des expériences historiques propres à chaque pays. Alors, chers collègues, s'il vous plaît, vous avez 10 minutes, donc c'est très très peu. Si vous pouvez respecter ce timing qui permettra surtout, parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant, c'est le débat et les questions qui vous seront posées justement pour nourrir cette mise en perspective. Et si vous pouvez aussi, quand vous prenez la parole, pardonnez-moi de vous présenter. Merci beaucoup. Je vais commencer donc avec Elisabeth Clavry qui est sur ma droite.
Bonjour, je m'appelle Elisabeth Clavry, je suis anthropologue. Je travaille comme anthropologue à la Cour pénale internationale à La Haye, non pas recrutée par cette institution, hélas pour mon salaire, mais personnel CNRS, anthropologue du CNRS, travaillant sur la façon dont les témoins sont entendus par une chambre du jugement. J'ai travaillé au sein d'une chambre pendant plusieurs années, en habitant à La Haye et en ayant un bureau à la Cour, sur des affaires en François-Congo et sur un certain nombre de groupes armés de la région des Grands Lacs. Mais ce n'est pas à ce titre que je vais vous parler, c'est pour vous présenter un des groupes, le groupe sur lequel je travaille, le groupe IPER, dont je partage la responsabilité avec Peter Wallenstein. Ce groupe, qui s'appelle Justice et Réconciliation, est un des 11 groupes fabriquent toute cette espèce de réflexion mise en place par l'IPER. Dans ce groupe, Peter Wallenstein et moi, nous avons formé deux sous-groupes. Peter s'occupe plutôt de questions d'évaluation. Yvon nous en a parlé hier, mettre en place des types d'indicateurs, essayer de trouver sur enquête des types d'indicateurs qui permettraient d'évaluer les bonnes et moins bonnes techniques de résolution de conflits avec tel ou tel et tel, appuyé sur tel ou tel ou tel type de processus de paix, pour parler de paix, type de négociation de paix. Le groupe dont je vais vous parler, dont je m'occupe, est un groupe qui travaille plutôt dans les problèmes de sortie de conflit sur les procès, sur le dispositif procès et tout ce qui l'entoure. Les procès dont nous nous occupons sont des procès surtout impliqués, mis en œuvre autour de deux grands cas de figure. D'une part, les procès qui s'appliquent au jugement des crimes commis pendant des dictatures, dans un régime précédent, antécédent, et qui s'appliquent notamment à l'Amérique latine. Sophie Davio va vous en parler immédiatement après. Et un deuxième cas, qui sont les procès mis en œuvre par les juridictions pénales internationales, qui sont nés en même temps qu'elles ont eu à qualifier ces crimes, qui s'occupe des crimes commis après les périodes de conflits armés ayant généré des violences extrêmes, des crimes de masse et des situations dans lesquelles le nombre de morts dans certaines régions excède ceux qui sont laissés vivants. Donc ce sont véritablement des crimes de violence extrêmement importants. Ce qui est intéressant dans ce deuxième cas, c'est que ces conflits qui mettent en situation de violence des personnes armées contre les personnes non armées, ce qu'on appelle les civils, c'est comme ça qu'est décrite aujourd'hui la guerre en Syrie, des combattants contre les populations civiles, ça vient d'une nomenclature mise en place par le droit pénal international avec la notion de personnes protégées qu'on appelle des civils. On ne va plus les nommer sous des rubriques du type le nom de leur ethnie, le nom, mais pour pouvoir les rendre comparables, on va les appeler des personnes civiles qui vont immédiatement dire simplement qu'au moment de leur mort, elles n'étaient pas armées. Et très souvent, elles n'étaient pas non plus. Donc, ce groupe va donc se préoccuper d'une part de procès, mais surtout va essayer de s'occuper à propos des procès d'une multitude de choses. Certains d'entre nous, c'est mon cas, vont travailler sur les procès comme les grands descripteurs aujourd'hui des conflits armés, sur leur modalité de description, sous quel type de cadre, à l'intérieur de quel dispositif les conflits contemporains, immédiatement contemporains, vont être décrits, puisque ces procès sont vraiment des instances et des dispositifs de description tout à fait étonnants. Mais si on veut qu'ils soient décrits, il faut savoir avec quel type de langage, dans quel cadre ils sont décrits, à partir du récit des témoins et à partir du type d'écoute, de nomenclature juridique, ils vont être entendus. Donc ces descriptions sont bien produites, mais comment elles sont produites, avec quoi, comment, etc. Les procès dont je parle sont des procès qui durent plusieurs années, par exemple. D'autres personnes vont travailler sur d'autres aspects des choses, sur les types de mobilisation procurées par les procès, sur les enquêtes du procureur, par exemple, de tel ou tel procureur, soit dans les juridictions pénales internationales, soit dans les juridictions nationales, et essayer de voir comment, quelquefois, ils ont travaillé dans des régions où, à la fois, il y a des renvois de poursuites, mais où l'amnistie est déclarée. Donc, il faut travailler dans des situations où amnistie, c'est des cas très fréquents, et incrimination voisine. Aujourd'hui, un certain nombre d'autres chercheurs travaillent sur des cas extrêmement fréquents, de plus en plus fréquents, où amnistie mesure transitionnelle, c'est-à-dire, par exemple, des gâchages. Par exemple, si on prend le cas du Rwanda, vous aviez à la fois une juridiction pénale internationale, le tribunal pénal international pour le Rwanda, des gâchages, des procédures d'oubli dans tel ou tel endroit, des procédures de recours aux armes pour la prochaine, etc., etc. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, cohabitent dans le même espace ou successivement une multitude de types de solutions post-conflit allant du regroupement dans les camps déplacés avec des personnes armées préparant la prochaine, des procédures d'amnistie, des procès de type procès au nom de la lutte contre l'impunité et avec des requirements de type accountability, c'est-à-dire responsabilité individuelle pour les crimes collectifs, et puis des procédures, au contraire, d'aveu public contre dispensation de peine et de passage au pénal. Donc, chacun d'entre nous travaille soit directement sur ces procès, soit sur ce que c'est, par exemple, au Liban, de promouvoir des procès sous couvert d'amnistie. Donc, je ne peux pas parler beaucoup plus longtemps, mais voilà ce que nous faisons. Ce sont des travaux de très long terme, vraiment des travaux de recherche qui s'appuient sur des travaux de terrain micro-locaux, macro-locaux, investiguée pour la plupart d'entre nous depuis 10 ou 15 ans et qui regarde transformation micro-locale de ces questions, des processus qui vont lier mémoire, oubli, procès, incrimination, vérité, imputation, et qui essaye de mettre en place des procédures critiques, non pas d'évaluation de ces processus, mais au niveau micro-local, comment l'ensemble de ces mémoires, par exemple, mise en place des mémoires domestiques, qui vont aller contre la mémoire de la maison voisine, puisqu'on s'est entretués entre voisins, et qu'on connaît celui qui a coupé votre sœur en morceaux qui habite dans la maison d'à côté, puisque ce sont des crimes entre voisins. Et on essaye de parcourir l'ensemble de ces situations dans ce groupe, sur un travail de très long terme. Merci.
Merci beaucoup. Merci pour la présentation donc, de cette façon de travailler et puis de la mise en place de cette nomenclature qui permet d'écrire à la fois les types de conflits, puis après les dispositifs de justice et de conciliation qui accompagnent donc, les sorties de violence. Je donne la parole à Sophie Daviau, qui prend la suite.
Merci. Juste pour une petite présentation, c'est ça ? Je n'ai pas 10 minutes à la main. Merci d'avoir pour l'invitation de l'IPER. Alors, moi, je suis enseignante chercheuse à Sciences Po à Aix-en-Provence et je travaille, j'ai démarré un travail de recherche en travaillant sur le terrain colombien, très loin de ce dont on a parlé jusqu'à présent, autour des problématiques de droits humains, des mobilisations autour des droits de l'homme pendant une période de grande violence en Colombie dans les années 90. Et c'est plus tard donc, que se sont installés en Colombie, qui ont été mis en place des dispositifs de justice transitionnelle, ce qui m'a amené à m'intéresser à ces questions, plutôt dans une optique comparative, puisque Elisabeth l'a dit, on s'intéresse à différents types de procès. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'objet procès à la fois en Colombie et en Argentine. À travers juste une petite entrée thématique, je m'intéresse au débat sur le ciblage des personnes à juger, le type de crimes qui vont être jugés dans ces différents pays. On a deux modèles complètement différents, on en reparlera. D'une justice qui prétend en Argentine juger jusqu'au dernier responsable et qui va très loin. Alors on est dans des temporalités différentes, hein, plus de 40 ans après la dictature en Argentine, avec le pays en Amérique latine où se sont ouverts le plus grand nombre de procès, plus de 2000 procès ouverts, crimes contre eux, plus de 2000 cas par an de personnes jugées pour crimes contre l'humanité depuis 2005 en Argentine, et au contraire un pays où on est dans la sortie de violence, où on vient de nouer des accords de paix avec les FARC, et où les juridictions sont censées permettre la réconciliation, donc où les tribunaux sont un espace, comme l'a dit Elisabeth, plus pour raconter, pour faire des aveux, mais permettant de réconcilier bourreaux et victimes à travers tout un jeu où l'espace du tribunal se transforme en une scène intéressante où les paramilitaires passent aux aveux et où les FARC vont bientôt le faire, enfin, du moins c'est ce qu'on espère puisque c'est ce qui est prévu par les accords de paix. Donc je vous parlerai de ces procès-là, mais tout à l'heure juste à travers l'angle de qui on a décidé de juger, comment on a ciblé les crimes sur ces deux cas très différents.
Merci, merci Sophie. Donc je vais donner la parole à Zacharia Rani.
Bonjour, Zacharia Rani, anthropologue et biologiste, Institut universitaire de la recherche scientifique Rabat. Je travaille sur deux thèmes, processus politico-religieux, anthropologie soir, processus politico-religieux, et plus récemment sur violence politique et processus de réconciliation. Le papier aujourd'hui concerne justement ce processus de réconciliation en lien avec ce qui se passe au RIF aujourd'hui. Et donc, comme vous le savez, les événements du RIF, ça fait plus qu'une année maintenant, qui sont déclenchés suite au brouillage de Hussein Fikri dans un camion de déchets pour récupérer son poisson qui a été jeté par la police dans ce canal de chien. Donc, brouillage, et justement, l'une des pancartes qui a été soulevée par les manifestants du RIF, c'est des années de plomb aux années de roi aimant. C'est pour manifester ce continuum, cette continuité de cette violence policière malgré le processus de réconciliation. Et les manifestants ont commencé par demander que justice soit faite, justement, pour que les responsables de ce crime soient condamnés, jugés et condamnés. Le mouvement appelé à justice Hirak, donc après une dimension plus grande en nombre et en qualité. Mais la réponse du pouvoir a été implacable et sévère au niveau médiatique, politique, mais aussi policier. Pendant que les partis du pouvoir et les sécuritaires qui accusent les manifestants de séparatistes et de séparatistes, c'est-à-dire c'est pour faire référence à ce mythe de pays de la dissidence qui a été mobilisé déjà en 1958-59 par le pouvoir pour justifier et légitimer l'intervention militaire et policière sévère qui a fait des milliers de morts dans les années 50, pour aussi légitimer une autre intervention dans les années 80. Et cette violence policière, donc, qui n'est pas limitée en quelque sorte à cette période qui a été désignée comme année de plomb, entre l'indépendance 56 jusqu'à la mort en 1999, mais qui va au-delà de cette période qui a été désignée comme période d'investigation pour l'instance d'équité de réconciliation. Donc, c'est le même argument de séparatisme. Justement, les manifestants, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soulevé des grands pancartes, ne sont pas des séparatistes. Donc, il n'y a pas. Malheureusement, c'est toujours le même leitmotiv qui a été mobilisé, aussi bien par les intellectuels que par les sécuritaires pour légitimer cette intervention. En effet, le RIF est une grande région victime de ces années de plomb, et déjà 58, 59, 84, 87, et plus récemment, 2011, suite au mouvement du printemps arabe, où quelques victimes ont été tuées. Brûlés vifs. On n'a pas encore une raison de ces assassinats. Et parmi les revendications, justement, des manifestants des RIF aujourd'hui, c'est d'ouvrir l'enquête sur ces assassinats liés au printemps arabe marocain, le 20 février. Donc, pour sortir de ce cycle de violence, comme je viens de le dire, et pour assurer plus spécifiquement une transition entre les deux règnes pacifiés, on a lancé depuis les années 90 un processus de réconciliation. Et un processus de réconciliation qui a été consacré en 2004 par l'institutionnalisation de l'instance équité et réconciliation, l'IUR. Et parmi les régions qui ont été, l'IUR a fait des investigations, des auditions, qui sont non négligeables, et parmi les régions qui ont été investiguées où les victimes ont été auditionnées, c'est le RIF notamment. Alors la question ici qui se pose, pourquoi ce rebondissement de la violence malgré ce processus de réconciliation? Pourquoi cette résurgence de cette violence aujourd'hui? Autrement dit, pourquoi le processus de réconciliation échoue? Je ne vais pas faire ici un détour historique sur tout ce qui a été fait, la jeunesse de l'instance, son travail. Je vais vous donner trois citations de trois victimes, et d'autres que je vais citer plus tard, du RIF notamment, en lien avec les événements de 84, et de ce qu'ils pensent eux-mêmes de ce processus de réconciliation. Youssef, la justice et la réconciliation, et mascarade, et dire que le modèle marocain de justice transitionnelle va servir à la Tunisie du modèle. Exclamation. Hassan, l'IUR est une pièce théâtrale pour assurer la transition et la passation du pouvoir. Dans les processus de réconciliation de justice transitionnelle, la commission qui doit veiller au bon déroulement des choses doit être indépendante, un arbitre entre les victimes et l'État. L'IUR n'est que le marzin, c'est-à-dire le gros mot pour dire État au Maroc, l'hier, l'école Merzen, l'arbitre et le bourreau. Troisième citation, Mohamed, après la réconciliation, je n'ai pas été réparé. J'ai fait une demande en 2005 qui est restée sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Mon cas est considéré hors délai. Dans ces témoignages et bien d'autres pointent du doigt les limites et les exclusions du processus de réconciliation marocain. Ces victimes ont le sentiment d'être encore une victime. Les victimes des autres injustices, l'injustice d'un processus désigné pour les réconcilier et les réparer. Dans l'un de ces témoignages qui est assez poignant, cette question de hors délai, c'est-à-dire elle est vraiment parlante, parce que le hors délai réfère à des demandes qui ont été déposées au-delà des délais exigés par l'UER. Le délai, c'est un mois après l'institutionnalisation de l'UER. C'est-à-dire, à partir du 5 février, vous avez jusqu'au 6 février pour déposer une demande. Au-delà de ça, vous n'êtes pas considéré comme victime. C'est-à-dire, on impose à la victimité la temporalité au-delà de laquelle on n'est plus considéré comme victime. À qui on doit la réparation. Mais, chose intéressante, cette temporalité ne concerne pas seulement la réparation. Elle concerne aussi cette période d'investigation entre l'indépendance et la mort de Hassan Diop. C'est-à-dire qu'on ne considère pas la violence qui a été faite avant, et justement, c'est ce qui est intéressant, l'une des demandes insistantes des manifestants du Rif, c'est-à-dire c'est de prendre en considération et sérieusement le taux d'incidence très élevé du taux de cancer dans la région, lié notamment à l'usage de produits chimiques par les Espagnols pendant la période de la colonisation. Et ça, c'est vraiment une demande persistante qui est tout le temps réitérée. Et deuxième chose, c'est-à-dire on ne considère pas cette violence qui était perpétrée après, pendant le travail, mais justement, même lors de l'institutionnalisation de l'instance d'équité et de réconciliation. Il faut préciser ici qu'au moment où cette instance travaillait, c'est-à-dire pendant la genèse de cette instance, il y a ce moment très crucial, c'est le moment des attentats de Casablanca, 2003, le 16 mai 2003. Et ce sont des attentats qui ont influencé et fragilisé la position de ceux qui voulaient vraiment une véritable commission de vérité, à l'instar de celle qui a été adoptée en Afrique du Sud. Vraiment, tous ceux qui voulaient une commission de vérité ont été désignés comme ceux qui étaient comme des éléments perturbateurs de la sécurité de l'État. Et donc ça, c'est très important, c'est-à-dire au nom de ce dispositif médiatique, etc., qui a été mobilisé, on a limité les prérogatives de cette instance d'équité et de réconciliation. Ici, je vous cite par exemple le ministre de la Justice, qui affirmait, bien sûr, avant de devenir ministre, qui va dire qu'en nous cherchant la réconciliation et quand nous indemnisons les victimes, c'est pour leur rendre justice, mais aussi pour que les violations qu'elles ont endurées ne se reproduisent plus. Et je dis, c'est le ministre de la Justice, et je dis qu'une partie de ce qui a été passé persiste toujours. Il y a encore aujourd'hui des disparus qui ont été restreints. Donc ici, il fait référence à cette période, des attaques terroristes et des violations des droits humains qui ont été perpétrées par l'État au nom de la sécurité, au nom de ces appréhensions terroristes. Selon mes interlocuteurs, seule une approche donc globale et compréhensible de la réconciliation et de réparation pourrait prévenir contre la répétition et instaurer un sens de la fin, c'est-à-dire pour sortir. L'exit de la violence. Ainsi, l'indemnisation financière, l'intégration sociale et la réhabilitation médicale sont les seuls éléments concrets qui ont été adoptés par l'instance, doivent être impérativement, selon les interlocuteurs, accompagnés par d'autres actions. Par exemple, il s'agit, selon certains interlocuteurs, notamment un autre Mohamed, d'excuses officielles de la part des rois, la révélation du sort des disparus, la poursuite des bourreaux et leur condamnation, l'assurance de la non-répétition à ce que nos enfants, dit-il, ne vivent plus la même chose. Ainsi, selon mes interlocuteurs, un processus de réconciliation ne peut être dissocié, on ne peut dissocier la compensation monétaire de la vérité, la responsabilité du pardon, comme on ne peut dissocier tout cela de la réparation collective en développement, les régions qui ont été victimes des environnements et par des pratiques de commémoration, notamment le RIF, ça c'est un élément vraiment de développement culturel et une mémoire politique en quelque sorte en lien avec ces événements. Ces témoignages rejoignent ce que un anthropologue de Princeton, John Bowman, appelle « binding violence », c'est-à-dire que la sortie de la violence politique n'est possible que par l'expansion d'une culture globale de réparation, qui, outre la compensation matérielle et la commémoration, doit aussi prendre en considération le témoignage et la justice. Si le témoignage, le fait de dire et d'écouter la vérité, renvoie à la rupture des silences hégémoniques concernant la nature de la perte, une comptabilité juridique vise à affirmer la distinction symbolique entre le mal et le bien. Certes, c'est-à-dire une telle justice n'est pas capable de corriger tous les cas, c'est-à-dire il ne peut pas être une justice rétributive de façon exhaustive. Mais John Bowman appelle, il désigne quelque chose d'une justice symbolique dans les termes de « ritual purification of the self ». C'est-à-dire qu'on va choisir des cas vraiment symboliques et pour les juger, pour montrer la fin, c'est-à-dire pour instaurer la confiance des citoyens dans leur système judiciaire. Et justement, les demandes des manifestants du RIF, aujourd'hui, vont dans le même sens. Ils veulent, et ça c'est des demandes qui ont été dites explicitement, une véritable réparation globale, compréhensive, qui prend en considération les pertes liées à la violence coloniale et postcoloniale, à la violence liée aux aides de blanc, mais aussi aux violences perpétrées après les aides de blanc. Et merci.
Merci, merci Sébastien d'avoir posé cette question centrale des limites du processus justice transitionnel donc, et de la non-résolution de conflits à partir des événements de l'Alcocéra, donc de cette région du RIF, qui est représentée comme une région victime et qui est inscrite dans un long cycle de violence, comme vient de rappeler Zacharia, notamment à partir de ces bombardements chimiques, donc ce protecteur espagnol. Je donne la parole à Darwin Reich pour 10 minutes aussi. Merci.
So good morning again. My name is Darwin Reich. I work for the U.S. Institute of Peace. My background is international human rights law and international relations. However, by no means I'm trying to compete with my academic colleagues present here. It's been 10 years I've been a practitioner, and my academic background has been diluted a lot into practice. I just want to share with you a couple of patterns and observations during this 10 years of engagement in reconciliation work and dialogues and peace building that you could probably detect throughout the region. And these observations are really things that were accumulated during my USIP experience, but also in previous capacities. And they are extended from Iraq to Lebanon, to Libya, to Tunis. But also, before we go into these observations, it's very important to remember why we're talking about reconciliation and justice issues and under the theme of those 2 days. Because eventually, as my colleagues here said, this path will definitely lead eventually to this conducive environment that is inclusive, where everybody could find their identity, human needs, socioeconomic demands, which are the main root causes or frame that were discussed the first day as being behind radicalization. So just, maybe we start with the first one, and it nicely linked to how you ended your intervention, which is always and all the time to have a comprehensive reconciliation process and justice achieved, you require the bottom-up, top-bottom approach. And it's not always easy to do it. In many, many occasions in this region, we find that efforts are able to implement only the bottom, meaning on the community level. And it's easy because you rely a lot on the social structure that, even despite the war and the violence, still preserved some kind of familiarity. Still, your neighbor manifested a gesture of protection when you were at risk. That's the first element. Why? The second one is because you tend to work in isolation from the national and international and regional dynamic, because our conflicts at the moment have changed in nature. You can't really look at an in-country conflict anymore. It's all linked. That's why all the conflict transformation practitioners now talk about linking the battlefields. You can't talk in isolation. So that's why working on the local level is easier, is faster, it has a bigger impact. But the challenge out of this is that you work on the bandage, you work on the result, and you don't work on the comprehensive approach, not because you want to, just because you have to, you're under pressure, your resources are limited. And the other challenge as well is that linking those local initiatives together to build up to a national level becomes very difficult, because the effort to coordinate among them becomes a new burden on a practitioner that is under-resourced, has donor pressure, and the national dynamic is not getting better anytime soon. So that's the first pattern that we could observe. The second one is that there is this saying that says that war is expensive, peace is not, it's cheap. I think post-war is more expensive than both. Not necessarily in money, but more in energy-wise. Because the post-violence phase, you're dealing with symptoms and you're dealing with root causes. At a moment where you're looking at the mechanism of transition justice, whether truth commissions or trial or international tribunal or Hibiya tribunal, you're looking at redressing victims. But then at a certain point, you hit this wall that you're actually dealing with lots of root causes of long-lasting history that this local community is not only responsible for. You had other international actors also getting involved in it. So when you're dealing with how to do a compensation for a victim of torture during a war, you end up looking at why this person is here. It's because of discrimination, it's because of the right of self-determination was deprived, etc. So it's a long-term process, it's very consuming, and looking at this observation specifically makes us think maybe it's more proactive to look at the preventive approach. The third pattern is that it often poses this dilemma of with what do we start first? Do we start with doing some sort of a national dialogue? Do we start with election? Do we start with reforming the constitution? Do we actually start with security sector reform? Do we start building rule of law? And it's never linear, and it's never one recipe, and it's always related to the context of the country. Some people would argue in Lebanon that the transition of justice should have started after the Taif Agreement, after the war had ended, instead of really revisiting the constitution. Some people argue in Libya that before withholding an election post-2011, you really needed to convene a national dialogue to agree on a common vision and identity of the country. So another pattern also is that we often tend to overlook the private sector, meaning private companies, the businesses, etc. Not because we want to, but because also it's time consuming and it requires lots of energy. And developing the arguments for the private sector to get on board with these kind of processes is hard. because it's profit-driven. But we also are working in a context where these businesses exist, and sometimes it's important to probe their interest and probe their added value within that process. Because if you look at the long run, the state is not getting any richer, and the international funds are not going to go up. So you might as well look at a third alternative that could sustain these efforts. You often find in those processes a big tension between conflict transformation and human rights. And despite the fact that you find the academic people or even practitioners saying, no, there's no need for them to clash, actually they complement each other, yes, in theory. However, if you go to sessions where debates on transition justice is happening, often it's the normative nature of transition justice that clash with the traditional structure of the society. An example of this is that during the transition justice plan that the civil society in Lebanon had put, you found 80% of the civil society saying, we want a national law that put all the warlords in prison. We're not accepting less than this. And you have 20% of other civil society saying, this is not realistic. Those warlords, yes, they've done wrong, but the price of putting them in prison right now is higher than basically not putting them. These are leaders, their community will feel uprooted. So the way around it is that what's our ultimate goal from the transition justice? We don't want them to be recycled again into the regime. So keep them and work on an election law that would filter them in and on. This tension is always there, and I've seen it among tribal leaders in Libya and also lawyers all the time. The last point as well, and I think I respected the time, is it's never an external solution. It's always a community solution, and I think we're good at saying this, but we're not really paying attention to what it means. It actually means that, and I want a bit to push back on what you said, although I think everything that was mentioned, not you, I think, yes, the first intervention about Libya, when we say this is what happened to Libya post-NATO intervention, the international interest from an international relations perspective will always be there. The dynamic will not change. And it's a slippery slope to say this is the West, this is the intervention responsibility. I've lived the war in Lebanon, and it's hard for me to say that because I also, my family had lost so many members. But I tell you, saying that the whole problem was the Syrian or the Palestinian or the Americans is a slippery slope because you're not taking responsibility for your acts. You also let this happen to you. You probably should have developed more of an immunity to your society. So in order to think that way, you also need to inform your own solution. So thank you.
Merci. Enfin, on a des intervenants formidables qui respectent leur temps. Merci beaucoup, Darine, pour ce retour d'expérience de 10 années d'observation et de travail sur les processus de paix et de justice transitionnelle sur un espace qui va de l'Irak à la Tunisie, et puis de ces interrogations intéressantes, effectivement, sur l'efficacité des coordinations internationales sur la protection des droits humains et de tout ce que vous venez de présenter. Je vais donner la parole à Mohamed lui-même, mais si vous permettez par la suite, je redonnerai la parole à Sophie Davio, qui a parlé très peu, 4 minutes. Tout le monde a respecté son temps de parole de 10 minutes. Je crois qu'il y a eu un petit malentendu quand j'avais dit présentez-vous. S'agissait de se présenter évidemment au début, mais ensuite de présenter son travail. Voilà, mais c'est pas du tout. Enfin, on va essayer de chasser les justes comme présidente de Table Monde. Mohamed.
Merci beaucoup. Merci Kalim, en particulier, pour m'avoir invité donc, à participer à ce colloque. Mon intervention porte sur le cas de la justice transitionnelle en Tunisie. Et évidemment, c'est un mécanisme, c'est un processus donc, qui est imaginé pour solder et gérer un héritage du passé, donc de l'ancien régime. De l'ancien régime qui va de Paul Kib à Ben Ali, hein, pas uniquement donc, la période, donc le règne de Ben Ali. Dans ce propos, en fait, je ne vais pas m'attarder sur les données ou bien sur le travail de la commission Vérité et Dignité, hein, qui a été créée pour justement gérer le mécanisme de la justice transitionnelle par la Constitution de 2014. Sur ces détails-là, sur les vidéos, les statistiques, on peut trouver vraiment toutes les datas sur le site, hein, de l'IVD, la Centre de Vérité et Dignité. Donc c'est facilement consultable. Non. Ce qui m'intéresse beaucoup plus ici, et dans ce mécanisme qui est conçu pour sortir, hein, de la violence, c'est en fait le déferlement de violence et de tension contre le mécanisme lui-même, contre le mécanisme qui était censé vraiment servir et consolider la sortie de la violence. Donc, pour cela, je vais essayer très très brièvement de présenter la spécificité, hein, du mécanisme tunisien de la justice transitionnelle, et puis je vais m'attarder un petit peu sur les résistances, hein, que connaît le travail de l'EDVT, et j'insisterai en particulier sur les initiatives ou bien les projets, les différentes versions du projet proposé par la présidence de la République pour contrer justement les travaux de l'instance Vérité et Dignité. Donc voilà, c'est l'une des spécificités de la justice transitionnelle en Tunisie, c'est que c'est un mécanisme, comme on le sait pour la justice transitionnelle, qui a pratiquement quatre objectifs, hein, la réconciliation, la responsabilité, établir la vérité et puis la réparation. C'est-à-dire, il ne sort pas de ce schéma, je vais dire, classique de la justice transitionnelle. Mais il a, par contre, une spécificité, c'est que le mécanisme de la justice transitionnelle en Tunisie associe les violations des droits de l'homme, sous l'ancien régime, aux crimes financiers, c'est-à-dire aux malversations financières, à la corruption, à l'abus des deniers publics. Et la preuve que ces deux domaines, je vais dire, sont intimement liés, c'est que l'instance Vérité et Dignité a reçu à peu près 17 000 dossiers qui portent sur le lien entre des crimes financiers, de corruption, de malversation et des violations des droits de l'homme. Donc, voilà principalement, hein, la spécificité donc du mécanisme établi au sein de l'instance Vérité et Dignité. L'outil de l'instance, c'est la commission, donc la commission d'arbitrage et de réconciliation qui va donc instruire des dossiers, etc., rédiger la convention d'arbitrage, et donc toute la procédure qui est vraiment très 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 détaillée. Et c'est une procédure qui offre grosso modo des garanties que ce soit pour les victimes ou pour les accusés, hein, qui ne sont pas vraiment très très loin de ce qu'offre généralement donc la justice conventionnelle, on va dire. Bien, le problème, c'est que l'instance Vérité et Dignité qui a reçu à peu près 62 000 dossiers, hein, en tout et pour tout, qui portent aussi bien sur les violations des droits de l'homme et la corruption et la malversation financière, n'a pu traiter que à peu près 4 000 ou entre 4 000 et 5 000 dossiers. Pourquoi ? D'après l'instance Vérité et Dignité, d'après la présidente de l'instance, c'est-à-dire ce retard-là, ou bien c'est pas tout à fait un manquement, c'est-à-dire le manque de rapidité dans le traitement des dossiers est imputable à des manœuvres de la part des pouvoirs publics essentiellement. Je vais revenir par la suite dans les détails sur certaines de ces manœuvres, pas toutes. Mais il est très intéressant de voir que la loi sur la justice transitionnelle a été adoptée en 2013 et que lorsque cette loi a été adoptée, on n'a pas vraiment vu beaucoup de contestations concernant la loi, c'est-à-dire ça n'a pas donné vraiment de véritables débats ou bien des tensions. Donc, tout le monde, au contraire, tout le monde était, j'allais dire, content qu'il y ait enfin une loi sur donc, la justice transitionnelle en Tunisie. Quand est-ce qu'on a commencé à contester cette loi et l'instance qui a été créée, cette instance d'inéligibilité? C'est le soir de l'élection de Ziyad Ben Sedri en tant que président de l'IVD. Et le soir même où on a commencé, ou bien les contestations et les réserves, etc., ont fusé le soir même de l'élection de Ziyad Ben Sedri. Et là, c'est très intéressant parce qu'on va voir que les contestations contre CNDCDI viennent d'abord de plusieurs acteurs et deuxièmement ont plusieurs motivations, on va dire. Alors, d'abord, les contestations viennent par les anciens compagnons de CNDCDI qui sont généralement, on peut dire qu'ils font partie du camp laïque de gauche. Alors, qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que le camp laïque de gauche reproche à CNDCDI? Pour faire bref, on reproche à CNDCDI son soutien et sa défense continue aux islamistes. Et donc, il y a un problème, et ça concerne aussi la sortie de la violence dans cette phase transitionnelle, c'est qu'on n'arrive pas toujours dans le camp laïque de gauche à concevoir qu'il y a une place pour l'islamisme d'abord, et deuxièmement, peu importe les crimes commis par les islamistes à une certaine époque, encore faut-il vraiment les vérifier, et se poser la question, est-ce qu'il y avait des procès équitables, justes, équitables, etc. Mais bon, il y a des aveux quand même, des islamistes eux-mêmes. Mais, c'est-à-dire, peu importe les dépassements ou bien les crimes commis par les islamistes, on ne peut pas leur ôter et nier leur droit à la réparation et à être traité, c'est-à-dire dans les normes internationales. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison qu'on viole les droits de l'homme parce que ce sont des islamistes. Et du coup, le camp laïque de gauche considère que parce que ce sont des islamistes, il ne faut pas les défendre. Donc, ça crée un véritable problème pour CNDCDI. Donc, dans son camp à elle, parce que CNDCDI, elle fait partie aussi de ce camp-là, elle n'est pas islamiste, CNDCDI. Donc, ça, c'était les premières vraiment tensions et les premières contestations de CNDCDI. Évidemment, la deuxième catégorie de contestation vient d'un groupe dans lequel j'intègre les versétistes, donc les anciens du régime, les affairistes, je préfère les affairistes que les hommes d'affaires, et puis les officiels aussi, les officiels surtout sous la présidence de Sepsi et le gouvernement de Sepsi, etc. Et puis aussi, j'associe dans ce groupe les médias. Ce groupe-là a fait un travail colossal, vraiment, pour bloquer, le travail et l'avancement, de l'instance vérité et dignité pour justement établir les vérités, etc., les réparations. Donc, les quatre objectifs qu'on connaît de la justice transitionnelle. Pour les officiels, on a tout de suite, par exemple, remarqué que pendant les auditions publiques, il n'y avait aucun officiel, aucun. Bien sûr, le président de la République était absent, le président du gouvernement, bref, aucun officiel. Exception notable, dans les dernières auditions publiques, il y avait la présence du gouverneur de la Banque centrale. Bizarre, tu vois, tiens, tiens, qu'est-ce qu'il vient faire, comment il a vraiment transgressé les instructions d'en haut. Ben, il se trouve qu'à à cette époque, il y a eu des bruits hein, concernant donc la c'est-à-dire qu'il va être démis de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale. Et donc c'était vraiment beaucoup plus une réaction ou bien un message hein, codé pour Sepsi, parce que le président de la République est responsable de la nomination du gouverneur de la Banque centrale, pour lui dire, ben voilà, si vraiment vous allez dans cette voie et la destitution du gouverneur de la Banque centrale, ben, vous allez voir dans quel camp je vais le faire mettre. Bref, dans les manœuvres aussi des officiels, on a remarqué que le chargé du contentieux de l'État, qui est membre donc, dans la commission d'arbitrage hein, et de réconciliation au sein de l'IGD, on a remarqué une absence totale, c'est-à-dire il ne venait pas du tout, il n'assistait pas du tout aux réunions, hein, il ne signait pas donc, les conventions d'arbitrage, et donc évidemment sans la signature et sans l'aval du chargé du contentieux de l'État, aucun dossier ne peut être instruit. Donc c'est clair, il y avait ce blocage-là. Le seul chargé du contentieux de l'État qui a un petit peu osé assister et essayer de faire avancer les choses, hein, on l'a démis de ses fonctions donc, tout récemment. Donc ça, c'est les manœuvres des officiels. Pour les autres, tels que les RCDistes, les intéristes et les médias, un certain nombre d'allégations, un certain nombre de moi je dirais de mensonges carrément, hein, pur et simple, que contre Sylvain Bessédrine et contre son institution, qui vont de la mauvaise gestion financière de l'institution, etc., de l'abus de pouvoir, du non-respect du jugement du tribunal administratif, etc., etc. Donc tout ça est relayé par les médias, et les médias, non seulement ils relaient ce que j'appellerais des campagnes carrément de diffamation contre l'IVD et sa présidente CNCDI, mais aussi il y a une sorte de boycott, hein, de non-accès au plateau télé, etc., donc les radios, pour les membres de la commission IVD, Vérité et Dignité. Donc, voilà. Un autre groupe, ce sont les parlementaires. Les parlementaires aussi se sont ligués, même ceux de Narada, certains d'entre eux, hein, contre l'instance Vérité et Dignité. Et on a eu droit, donc, vraiment à un ensemble d'allégations contre Sylvain Bensedeli, puisqu'il était vraiment des allégations pour la plupart, hein, pour la majeure partie des allégations infondées. Bon, je vais passer sur les détails, il y a plein de détails, mais l'idée c'est que, voilà, donc il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs acteurs plutôt, qui ont participé donc de ce blocage. Si je peux me permettre, Italie, deux petites minutes, pour m'attarder un petit peu sur l'initiative du président de la République. Parce que ça, c'est très intéressant. Parce que là, on a vu les groupes, à la limite, moi je dirais que c'est tout à fait normal que les médias de Ben Ali, que les affairistes, les exercices, l'ancien régime, oui, cherchent à bloquer le travail. Oui, on peut dire que c'est à la limite normal. Ou bien attendu et prévisible. Mais venant du président de la République, chercher à bloquer, à écarter complètement l'instance Vérité et Dignité, donc d'instruire les dossiers de la corruption de la malversation, c'est tout de même choquant, d'autant plus qu'il est le garant hein, du respect de la Constitution. Alors, il prend une initiative sous forme d'une loi organique sur la réconciliation économique, et dans laquelle il amnistie tous les hauts cadres, tous les fonctionnaires, tous les assimilés fonctionnaires, etc., etc. Donc, c'est une presque loi d'amnistie, hein. C'est pas presque, c'est une amnistie en bonne et due forme. Et puis, et je terminerai, Et puis, il institue aussi une autre procédure pour chercher une sorte de transaction avec les gens qui sont impliqués dans des affaires de malversation financière, etc. Or, le président de la République, constitutionnellement, il n'a pas le droit de prendre une telle initiative parce que ses compétences c'est-à-dire il a trois compétences, bien porte sur trois domaines, donc les affaires étrangères, la sécurité et la défense. Qu'est-ce que le président de la République vient faire pour porter devant l'Assemblée des représentants du peuple un projet de loi sur la réconciliation nationale et dans lequel il est stipulé expressément que l'essence, vérité et dignité sera donc écartée de tout dossier concernant la malversation financière et les affaires de corruption. Alors, vraiment, ce projet de loi, bien sûr, a été très contesté, que ce soit par les instances internationales ou par la société civile tunisienne, mais de toutes les façons, on est à la troisième version maintenant de ce projet de loi proposé par le président de la République. Et il se trouve que le blocage actuel vient de son allié principal, qui est Nana, qui cherche une sorte de marchandage entre je te fais passer le projet de loi sur la réconciliation économique, tu me fais passer à une autre loi qui porte sur les jardins d'enfants et les crèches, dans lesquelles on a cherché à intégrer les initiations aux préceptes islamiques, etc. Bon. Donc il y a un véritable blocage maintenant. Mais de toutes les façons, moi, je constate et je considère que le président de la République, si jamais son projet de loi passe, il aurait réussi un macabre exploit, c'est celui d'inscrire son nom aux côtés de Pélouchet, qui, dans les années 70, lui aussi, a institué formellement une loi sur l'amnistie. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Mme. Merci d'avoir mis la focale justement sur ces débats polémiques extrêmement violents qui se sont en fait déchaînés à la fois contre le dispositif mais contre la présidente et qui renvoient sans aucun doute justement aux fractures politiques de la société tunisienne, ou du moins telles qu'elles se sont exprimées depuis 2011. Et là, c'est une autre façon effectivement d'analyser le dispositif de l'idée. Alors, je rends justice quand même à Sophie, parce qu'elle a très peu parlé, elle a eu juste le temps de se présenter, de présenter son travail, et je t'en prie.
Merci. Alors, je vais essayer de synthétiser au maximum pour ne pas prendre de temps. J'aurais dû sauter sur la parole et peut-être réagir plus vite. Je voulais vous parler donc d'une partie justement du projet de l'IPEB qui concerne les procès, faire un grand écart par rapport à la Tunisie et la présentation de Mohamed, même s'il y a des points communs autour de ces controverses, etc., sur la justice transitionnelle, en m'intéressant donc à certains cas de l'Amérique latine, où ce qui m'a intéressé sur ces terrains-là, c'est que dans les années 80-90, ont été mises en place, comme en Tunisie, actuellement en train de le faire, des dispositifs de réconciliation, de justice transitionnelle dans la plupart des pays d'Amérique latine. Et ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que ces dispositifs ont en quelque sorte différé dans le temps l'exercice de la justice pénale et qu'on assiste, dans certains pays au moins, à une forme de retour de la justice pénale, ce qui montrerait que les affaires, les récits sont jamais achevés, ces affaires, ces questions sont jamais résolues ou fermées. Ça reviendra sûrement aussi en Tunisie. Il semble qu'il n'y ait pas de véritable réconciliation en Amérique latine sur la base de ces premiers dispositifs et que les CVR, les amnisties, etc. n'ont pas fait taire ces demandes de justice. Et donc ces demandes resurgissent, surtout, je vous l'ai dit tout à l'heure très rapidement, en Argentine, qui est le pays où véritablement il y a énormément de procès pour crimes contre l'humanité par rapport à des questions qui datent justement de la dictature de la fin des années 70. Et ces questions émergent également, et là c'est plus peut-être paradoxal, dans un pays qui sort à peine d'un conflit armé interne, qui est la Colombie, où il y a tout un ensemble de débats et de mesures qui ont été mises en place pour essayer de régler au moins une partie du passé violent En Colombie, pour faire très très vite, ça concerne pour l'instant le passé des paramilitaires, donc c'est combattants armés d'extrême droite qui combattaient les guérillas, des FARC et aussi de l'ELN, etc. Et donc ce qui m'intéressait, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est comment en fait dans ces deux pays, on a deux espèces de dispositifs, de paradigmes évidemment très différents de justice qui sont proposés en œuvre. En Colombie, je vais vous donner un tout petit aperçu, puisque l'impératif est vraiment la réconciliation, le paradigme de justice qui est mis en place pour l'instant par les Colombiens. C'est un paradigme de justice restauratrice qui fait vraiment appel au pardon, à la réconciliation. Donc ce dont parlait Elisabeth, il s'agit de passer aux aveux pour les paramilitaires et en échange d'avoir accès à des remises de peine. Au contraire, l'Argentine, 40 ans après, revient sur sa politique de priorisation qui avait été mise en place juste au moment de la transition, en 1985, où il y avait un procès des militaires, et va vers un modèle de justice complètement opposé, plus que modèle de justice rétributif pour le coup totalement, mais qui n'est pas sans poser d'autres problèmes en termes de récit, en termes de jusqu'où peut aller un appareil de justice, etc. Alors, les débats sur la priorisation, ils ont aussi été intéressants dans ces deux pays, parce que, notamment en Colombie, ils ont emprunté beaucoup. Il y a eu des phénomènes de circulation de la jurisprudence qui ont été très très forts, notamment au sujet de ces débats sur la priorisation. Donc c'est un tout petit aperçu de ça que je voudrais donner aujourd'hui. Dans les débats colombiens, moi je me suis intéressée à un chef paramilitaire qui s'appelle Salvatore Mancuso, très très chic type en Colombie, qui était responsable de quatre blocs de groupes d'autodéfense au nord de Colombie, qui à peu près à son actif, les actions, il serait responsable aux alentours de 10 000, 15 000 victimes. Et la question qui s'est posée dès le début, ces tribunaux pour juger les paramilitaires sont mis en place en 2006 en Colombie, ça a été dès le début un défi majeur pour les tribunaux, parce qu'on n'a pas fait appel à un tribunal hybride, ni à un tribunal pénal international, comme on avait fait pour le Rwanda, pour l'ex-Yougoslavie, mais ça a vraiment été une volonté de traiter l'affaire au niveau national, à travers des cours nationales. Et très vite, il y a eu une difficulté, une crise de ce processus de justice, justice et paix, qui a été critiquée très rapidement par les médias, etc., par les chefs paramilitaires eux-mêmes, donc le chef sur lequel j'ai travaillé, Mancuso par exemple. Il déclare depuis sa prison des États-Unis, puisqu'il a été extradé et que le procès se fait depuis les États-Unis, qu'il lui faudrait 200 ans pour dire toute la vérité sur toutes les atrocités qu'il a commises, s'il devait vraiment commencer à réellement passer aux aveux et suivre les démarches, les méthodes prévues par les tribunaux colombiens. Donc on a eu toute une coalition d'acteurs transnationaux qui sont mises en place et qui ont commencé à critiquer le processus, critiquer la manière dont travaillaient les opérateurs de justice colombiens et à préconiser d'autres méthodes passant par la priorisation. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs figures interviennent, un pénaliste allemand qui s'appelle Kai Ambos, plusieurs organisations internationales, l'OEA très fortement, et à l'OEA, on mandate un expert qui est le juge Garçon, qui va faire une série de recommandations, hein, qui est très présent aussi sur le terrain argentin, et qui va, pour le gouvernement colombien, être utilisé très fortement comme quelqu'un qui va servir à réorienter le processus, à sauver un peu ce processus du fiasco en recommandant des méthodes de priorisation. Alors, ces méthodes, elles vont être très fortement influencées par d'autres expériences internationales. On regarde un peu ce qui s'est passé du côté du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, même si au début, il n'y avait pas de la priorisation dans les règles du tribunal. Mais petit à petit, ça a été mis en place, en Bosnie aussi. Et on adopte l'idée de procéder à travers des cas qui sont les cas les plus représentatifs. Donc juger les cas qui seraient les plus paradigmatiques, des patrons criminels, hein, c'est ce que fait aussi, ce que propose aussi la Cour pénale internationale dans partie de son mandat, hein, les persécutions thématiques, notamment les cas de violences sexuelles et le cas des des recrutements de mineurs. Donc c'est autour de cette réflexion que finalement le procureur colombien va décider de se focaliser sur seulement certains crimes et de juger en priorité aussi seulement certains responsables, les plus hauts responsables. Donc on va déterminer une liste de 16 hauts responsables, je passe les détails, de 6 types de crimes contre l'humanité qu'on va prioriser, ce qui suppose évidemment de laisser de côté toute une série de victimes, une série de crimes, ce qui n'est pas sans poser de problèmes. Et il y a une justification qui est mise en avant dans les documents du procureur autour de ces réflexions qui est intéressante, c'est que l'ancien modèle qui serait qu'avait employé la justice colombienne serait discriminatoire, car il nierait l'existence de différences entre victimes, de différences entre victimes liées au genre, au fait qu'elles sont mineures, au fait qu'elles ont des appartenances ethniques, ou qu'elles peuvent être des défenseurs des droits de l'homme, des personnalités politiques reconnues. Autrement dit, toutes les victimes et tous les bourreaux ne sont pas égaux, et il faut partir de cette inégalité de fait. Donc c'est comme ça qu'on a procédé en Colombie et qu'on prévoit de procéder aussi par rapport aux FARC, avec tous les débats qui sont en train de se donner sur comment la justice qui va juger les FARC va reprendre ou pas ce modèle par rapport à quel type de crime, etc. Alors juste deux mots pour terminer sur l'Argentine, où on est là dans un scénario complètement différent, où en Argentine, ce qui a lieu depuis 2005, c'est ce qu'on pourrait appeler une seconde épuration, en fait, pour reprendre les termes d'Henri Rousseau. On a énormément de cas qui avaient été laissés de côté par les lois d'amnistie, d'impunité, qui vont être repris par la justice, et un nouveau paradigme qui est vraiment au centre des procès argentins, qui est celui de la justice rétributive. Alors, évidemment, là je vais très vite, il y aurait différents facteurs d'explication de ce phénomène, pourquoi l'Argentine, 40 ans après, va vers ce paradigme-là. Certainement, en Argentine, les associations de victimes, les ONG, etc., n'ont jamais opté pour la réconciliation nationale. Il n'y a jamais eu, y compris dans les pratiques de gestes de réconciliation, hein, les pratiques des malaises, qu'a analysé d'ailleurs Sandrine dans ses travaux, on a vraiment des pratiques très hostiles envers les anciens responsables de la dictature qui sont restés en place toutes ces années. On a aussi une alliance du pouvoir politique, notamment du président Kirchner, avec les ONG pour influencer ces procès qui est très très fort. Et ça va donner lieu à justement un rejet de toutes les normes transnationales, de toutes les normes internationales sur la priorisation. C'est-à-dire la même personne qui va assister à l'ouverture des procès, qui est le juge Garçon, qu'on retrouve en Argentine, que je retrouve sur un procès sur lequel je travaille qui s'appelle le procès ESMA, qui concerne un grand centre de détention pendant la dictature en Argentine, où il y a eu à peu près 5000 victimes. Eh bien, on met en place en Argentine ce qu'on appelle des méga-procès, où il s'agit de, petit à petit, non plus de juger au cas par cas, puisque ce serait quelque chose de colossal, mais la technique utilisée, c'est l'accumulation des causes depuis 2010. Donc dans la phase actuelle, ce qui est entrepris, c'est d'essayer de mener des enquêtes sur tous les cas qui sont liés aux principaux centres de détention. Donc il y a énormément d'affaires en cours. Et dans ce cas-là, la ESMA, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit aussi de proposer un autre récit sur la dictature que un récit différent de celui qui a été proposé en 85, dans le sens où, dans la phase actuelle du procès, il y a 68 personnes qui sont accusées, il y a des civils qui sont liés aux pratiques de crimes contre l'humanité, des pilotes des vols de la mort, des gens de l'Église, et toute une dimension financière, c'est-à-dire que les biens des anciens guerrilleros et montoneros, les propriétés étaient volées, extorquées par les militaires, qui avaient même monté une agence immobilière, etc. Donc il s'agit de revenir sur toute cette affaire-là, et on parle maintenant en Argentine, et c'est la mise en récit qui est proposée notamment dans la première sentence de la ESMA, de génocide depuis 1955, avec une vision aussi qui va vers le temps long, et de dictature ecclésiastico-civico-militaire, donc dictature à adjectif, hein, puis c'est pas fini, on va peut-être encore en rajouter. Donc, on est vraiment vers un travail de réinterprétation le plus englobant possible, avec cette idée que c'est une justice qui permet tout sauf la réconciliation. Je terminerai là-dessus, puisque les militaires, eux, n'ont pas le droit à la parole. Ils n'ont pas non plus avantage dans ce système de justice à passer aux aveux, puisque leurs peines sont de 40-50 ans pour des gens qui ont aujourd'hui 85-90 ans. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc, deux modèles vraiment complètement opposés.